De lire ensemble dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6. Notre Seigneur nous dit au verset 9, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Aujourd'hui, nous prenons le temps de réfléchir ensemble sur cette cinquième requête de la prière du Seigneur, pardonne-nous nos offenses. Et après un mot d'introduction, nous aurons cinq questions à nous poser. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Dieu voulant, la prochaine fois, nous allons parler de cette condition, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais nous allons nous limiter aujourd'hui juste à réfléchir ensemble sur ce que le Seigneur veut nous dire en nous disant de prier « Pardonne-nous nos offenses ». De plus en plus, en parcourant avec vous cette prière depuis des semaines, je suis frappé par le fait que, dans un sens, toute notre vie, c'est de tenter, par la grâce de Dieu, avec toute notre force, arriver à prier vraiment cette prière. Que les dispositions de cœur qu'il nous faut pour prier réellement cette prière, c'est tout ce que je veux. Et aujourd'hui, nous arrivons donc à une chose qui est tellement immense et capitale pour nous, qui nous concerne tous les jours. Qu'est-ce qui peut être plus important que nos péchés? Oh, nos péchés! Nos péchés contre le Dieu vivant. Et tous les jours, il n'y a pas de réalité, il n'y a pas de fait plus proche, plus intime, qui nous concerne le plus et qui est plus important que de trafiquer en pardon avec notre Dieu. Pardon des péchés. Peut-être les dealers, ils vivent en trafiquant des drogues. Moi, je veux vivre en trafiquant dans le pardon divin. C'est comme ça que je peux vivre. Le fait de chercher le pardon de Dieu tous les jours est vraiment le moyen de chercher Dieu lui-même, d'être proche à lui. Parce que qu'est-ce qui fait qu'avec une personne humaine, je ne cherche pas son pardon si je l'ai offensé? Seulement si je ne l'aime pas. Seulement si je n'ai pas envie d'être proche à lui. Seulement si je ne le prends pas au sérieux. C'est en ce moment seul que je peux considérer que ce n'est pas important d'avoir son pardon. Est-ce que tu cherches le pardon de Dieu? Est-ce que tu prends Dieu au sérieux? Est-ce que c'est important qu'il soit offensé, ou provoqué, ou attristé? Est-ce que c'est important que votre relation soit troublée? On peut comprendre que l'importance de cette prière qui est tout au milieu de la prière du Seigneur, pardonne-nous nos offenses. Et c'est une prière quotidienne. C'est la seule requête de la prière du Seigneur qui est commentée par le Seigneur. Regardez dans le verset 14, après le Amen, Jésus nous a donné cette prière modèle, et puis il va commenter que cette seule requête. Il va dire tout de suite, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Et puis il change de sujet lorsque vous jeûnez. Donc c'est la seule requête que le Seigneur prend le temps soigneusement d'appuyer et d'expliquer. Bien, nous allons donc ensemble essayer de répondre à cinq questions afin de bouger un peu dans notre vie chrétienne, de ne pas être le même à partir d'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, d'avancer, de comprendre, de saisir, d'être frappé par le fait que nous avons immensément besoin de prier tous les jours, pardonne-nous nos offenses. Et je ne sais pas si vous le faites déjà. Est-ce que vous priez tous les jours comme ça? Est-ce que ce besoin dans la manière dont votre cœur est aujourd'hui, votre disposition, votre attitude envers vous-même et envers Dieu et envers l'importance de votre relation avec lui, ça vous a poussé à devoir prier tous les jours? Sinon, vous avez comme moi un problème de cœur, un problème profond de cœur. Qu'est-ce qui fait que vous n'auriez pas le sentiment que c'est essentiel de prier ça tous les jours? Et donc, nous voulons que le Seigneur nous amène plus loin. Donc, la première question, c'est quelle sorte de pardon suis-je en train de demander à Dieu en priant, pardonne-nous nos offenses? Il faut que vous compreniez que la prière du Seigneur n'est pas une prière que peut prier un non-chrétien. D'accord? Il dit, il est en train de donner un serment. Le serment sur la montagne est un serment adressé aux disciples. Et nous seuls qui sommes convertis, nous pouvons adresser Dieu comme notre Père. D'accord? Et toute cette prière, c'est seulement un croyant qui peut dire avec véracité, parce qu'il le veut, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Le non-chrétien ne peut pas prier ça. Il peut le dire, mais il ment. Ce n'est pas le désir de son cœur. C'est une prière pour la personne convertie et sauvée et justifiée. Alors, il y a un problème tout de suite, n'est-ce pas? Les vrais croyants comme vous, vous êtes déjà dans un état justifié devant Dieu. Romains 5 et verset 1, par exemple, nous dit ceci. Excusez-moi. Étant donc ou ayant été donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, le mot justifié signifie que Dieu vous regarde en Christ comme étant complètement juste devant lui, en règle et sans aucune culpabilité. Cet état de justifié, vous le recevez au moment de votre conversion et il est irrévocable. Il est inchangeant. Vous ne pouvez pas être moins justifié ou plus justifié au fil de votre vie chrétienne. D'accord? Ça veut dire qu'il n'y a aucune condamnation de Dieu envers vous. Depuis le moment de votre conversion jusqu'à l'éternité, vous n'êtes jamais l'objet de la condamnation de Dieu. Quand vous péchez en tant que chrétien, vous n'êtes pas sous la condamnation de Dieu. « Quand vous êtes justifié, ça veut dire que tous vos péchés, passés, présents et futurs, ont été expiés par Christ. Si vos péchés futurs ne sont pas expiés, vous avez un grand problème. Parce que la seule manière de les expier, c'est Jésus à la croix. Et s'il ne l'a pas fait, quand il était sur la croix, rien ne peut le faire. Et donc la Bible dit que quand vous venez à Jésus-Christ et vous recevez son salut, vous recevez tout de suite le pardon actuel et réel de tous vos péchés passés. D'accord? Et vous recevez, on va dire, le pardon virtuel de tous vos péchés futurs. Vous ne pouvez pas être pardonné pour un péché qui n'a pas été commis. D'accord? Mais vous recevez au moment de votre conversion la certaine héritage d'un état justifié. Ça veut dire que quand vous péchez, ce péché est pardonné. Ce péché est pardonné vis-à-vis de la passibilité à la condamnation divine ou à l'enfer. C'est-à-dire que cette culpabilité du péché, par lequel le péché vous mérite l'enfer, cela est ôté. Et quand vous péchez, ce péché ne contient plus une telle passibilité au jugement éternel. Excusez-moi, je réfléchis parce que je veux que vous me compreniez bien. Nous allons regarder un ou deux passages bibliques et je vais essayer de rendre ça compréhensible avant de passer plus loin. Colossiens chapitre 2 et verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui. Donc il parle aux personnes converties, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires, il l'a supprimé en le clouant à la croix. Donc tous nos péchés sont inclus dans cette œuvre de Christ. C'est pourquoi aussi dans 1 Jean chapitre 1, versets 1 et 12, si vous pouvez regarder, mes petits enfants, chapitre 2, 1 Jean 2, versets 1 et 2, mes petits enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, ça c'est les péchés chrétiens, hein, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés, y compris si quelqu'un pèche en tant que chrétien, il a tout de suite Christ comme avocat pour ce péché et victime propitiatoire. Ce péché est expié par Christ. Dans le verset 12 du même chapitre, c'est pourquoi Paul peut dire ceci, Paul Jean peut dire ceci. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Et peut-être le verset le plus important pour comprendre tout cela, c'est Romains chapitre 4 et les versets 7 à 8. La Bible nous dit dans ces deux versets, en citant le psaume 32, 4, 7, Romains 4, 7, Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts, heureux l'homme à qui le Seigneur ne compte pas ou n'impute pas son péché. Quand vous êtes converti et quand vous êtes justifié, la justification signifie entre autres la non-imputation de tous vos péchés futurs. Ça ne veut pas dire que Dieu ne vous considère pas d'avoir péché, il sait que vous avez péché. Et il considère ce péché comme un péché. Mais il ne compte pas ce péché contre vous dans le sens judiciaire pour vous rendre passible au jugement de l'enfer. D'accord? Si vous voulez, dès votre conversion, Dieu a mis de côté son office, sa fonction de juge vis-à-vis de vous pour toujours, et il a revêtu le caractère d'un père aimant pour toujours. Ça change beaucoup de choses en ce qui concerne sa relation avec vous quand vous péchez. Donc tout cela veut dire, excuse-moi pour avoir été péniblement laborieux dans cette partie, un peu théologique, mais ça veut dire que quand tu pries tous les jours, pardonne-nous nos offenses, ou même pardonne-moi mes offenses, ça veut dire que tu n'es pas en train de prier pour être juste devant Dieu, en règle avec Dieu. Tu n'es pas en train de prier pour recouvrir, pour retrouver une justification perdue ou pour stabiliser un état en règle avec Dieu qui vacille. Non, 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 non. Vous êtes juste avec Dieu, vous êtes aussi autant en règle avec Dieu au moment où vous êtes en train de pécher en tant que chrétien qu'au moment où vous êtes en train d'obéir et de louer. Parce que ce ne sont pas vos œuvres qui vous rendent juste devant Dieu. Donc, nos péchés après la conversion n'altèrent pas le fait que nous sommes accueillis, acceptés, aimés et chéris et dans la famille. Et si vous voulez parfaitement saisir qu'est-ce que les péchés signifient donc pour moi, si les péchés ne peuvent pas me mettre en péril d'enfer ou de condamnation, lisez avec moi Jean dans Jean 13 et vous allez tout voir parce que le Seigneur utilise une image lumineuse qui règle tout dans notre compréhension. Jean chapitre 13 et je lis à partir du verset 3. C'est la nuit avant sa mort. Et Jésus, qui savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il s'entoura. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il vint donc à Simon-Pierre qui lui dit: « Toi, Seigneur, tu me laverais les pieds? » Jésus lui répondit: Cela, ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras dans la suite. Pierre lui dit: Non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit: Regardez bien, si je ne te lave donc les pieds, tu n'as point de part avec moi. Simon Pierre lui dit: Seigneur, donc non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Et Jésus lui dit: Celui qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver, sauf les pieds, car ou mais il est entièrement pur. Donc Jésus est en train de donner une image de l'homme justifié que vous êtes. Vous êtes comme quelqu'un qui a pris un bain, d'accord? Et lorsque vous péchez, vous n'avez pas besoin de refaire un bain à chaque fois. Jésus dit: Non, je refuse de te donner un bain. Pour moi, vous êtes pur. Vous avez juste besoin que je vous lave les pieds. Mais je lave des pieds des personnes qui sont pour moi propres. Et c'est ça notre situation, n'est-ce pas? C'est vraiment formidable. C'est incroyable, c'est glorieux. Que quand nous disons pardonne-nous nos offenses, nous sommes en train de dire lave-nous nos pieds au Seigneur. Non pas sauve-nous de l'enfer éternel. Ou stabilise notre état sauvé qui est en train de se perdre. Non. Le Seigneur met les points sur les i avec Pierre. Cet état d'avoir pris le bain est stable et permanent. Et tout ce qu'il nous faut maintenant, c'est de laver les pieds, d'avoir les pieds lavés par le Seigneur. Donc, si vous voulez, dans cette prière, pardonne-nous nos offenses, nous ne sommes pas en train de demander un pardon judiciaire, mais un pardon familial. D'accord? Le pardon judiciaire, c'est-à-dire qui nous enlève la condamnation, le bannissement de la part de Dieu, est déjà à nous depuis la conversion et pour toujours. Mais nous sommes dans la famille et nous péchons contre le Père. N'est-ce pas? Et quand nous péchons contre Dieu le Père, c'est un vrai péché. Mais ce n'est plus un péché dans le cadre judiciaire. C'est un péché comme le fils prodigue déjà revenu à la maison, rentré dans la famille pour toujours, mais faisant, excusez-moi, une bêtise qui ne met pas en danger son état de fils, mais quand même qui doit quand même être réglé. Donc, deuxième question, et la première était de loin la plus longue et une bonne partie de ce sermon, mais la deuxième question, c'est pour quelle sorte de péché suis-je en train de demander pardon? Et je pose la question parce que nous devons être pratiques. Tu parles de quoi quand tu dis au Seigneur, pardonne-nous nos offenses? Lesquelles? Tu es en train de prier pour quoi, au juste? Tu es en train de prier pour des vrais péchés. Et là, c'est la transition du dernier point. Même si ces péchés ne te rendent pas passible au jugement dernier, ce sont des péchés. Dieu a toujours des commandements. Et lorsque vous transgressez ces commandements, ce sont des transgressions. Mais des transgressions dans la famille. Le juge pouvait être offensé, mais le père peut être offensé. Ce sont deux réalités différentes dans la manière de les vivre. Mais on peut contrister le père. Vous le contristez tous les jours. Et vous avez besoin de prier. Deuxièmement, je suis en train de demander pour quelle sorte de péché nous prions, des péchés réels. Deuxièmement, des péchés spécifiques, parfois des péchés spécifiques que nous nous rappelons au moment où nous prions. Quand je me mets devant le Seigneur et je prie la prière du Seigneur et je prie pardonne-nous nos offenses, je prends le temps de réfléchir. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique qui est sur ma conscience ou que Dieu met sur ma conscience? Et si oui, je demande pardon spécifiquement, nommément, pour ce péché. D'accord? J'espère que beaucoup de nos péchés spécifiques que nous commettons consciemment, on les a déjà confessés au moment de les faire ou juste après, n'est-ce pas? Mais parfois, en priant, on se rappelle de quelque chose qui n'était pas, qu'on n'a pas confessé au Seigneur, on n'a pas demandé pardon. Et quand nous prions cette prière, c'est pour des péchés spécifiques comme ça. Mais pas seulement. Parce que tous les jours, vous avez besoin de demander pardon pour des péchés dont vous n'êtes pas conscient. Vous vous rappelez du psaume 19, qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ce que j'ignore. Est-ce que vous savez, chers amis, que chaque fois que votre amour pour votre conjoint ou un collègue ou un voisin ou n'importe qui n'arrive pas à la mesure de l'amour de Christ lui-même, vous péchez. Chaque fois que votre espérance n'est pas complète et remplissant vos cœurs, vous êtes en train de pécher. Chaque fois que votre foi n'est pas entière et que vous avez des doutes, c'est le péché qui est présent dans votre cœur. En fait, à tous les moments de la vie, vous êtes en train, par les restes du péché en vous, vous êtes en train de pécher contre Dieu en vivant sans revêtir complètement l'image de Christ en vous. Par mille manières que vous découvrez, vous êtes un peu comme un iceberg, n'est-ce pas? Et vous voyez 10% de vos péchés. Et les 90% sont là, et Dieu les voit. Et c'est un sujet de tristesse pour le Père qui nous aime. Et chaque jour, nous allons et nous disons, Seigneur, oh, ces 90%, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi d'être encore qui je suis. C'est profond, hein, cette manière de vivre avec le Seigneur. Et ensuite, quand nous demandons pardonne-nous nos offenses, nous sommes en train de prier pour nos péchés futurs. Le saviez-vous? Et peut-être l'accent, en fait, est là dans cette requête. Quand je dis que ta volonté soit faite, je suis en train de parler du futur. Quand je prie pour mon pain, je suis en train de demander une chose future. Quand je dis ne me livre pas à la tentation, je suis en train de parler de mon futur. Quand je dis délivre-moi du malin, je suis en train de demander quelque chose par rapport aux jours qui viennent. Il me semble que toutes les requêtes de cette prière concernent l'avenir. Et sans doute cette requête aussi. Et nous sommes en train de dire, quand je les commettrai, Seigneur, les conscients et les inconscients, pardonne-moi, Seigneur, mes offenses. La troisième question, c'est simplement, si mes péchés depuis ma conversion n'attirent pas sur moi ou toi, la condamnation de Dieu, pourquoi est-il si important que nous demandons pardon chaque jour? Et très rapidement, vous comprenez, ça, c'est en raison du tort que ces péchés font à Dieu, notre Dieu et notre Rédempteur. La première raison pour demander pardon n'est jamais pour obtenir quelque chose pour vous. Jamais! Nous nous trompons si souvent en pensant que je demande pardon premièrement pour recevoir cet acquittement, cette décharge. Moi, non! Quand même, nous sommes tellement égoïstes. Si je pèche contre ma femme, elle est meurtrie, quelle est la première raison que je demande pardon? Pour moi ou pour elle? Bien sûr, c'est pour elle. C'est pour elle. Et je demande pardon pour lui. Je me souviens dans le livre de Josué, après Achan a volé des choses bannies et interdites par Dieu, Moïse va auprès de lui et il dit quelque chose comme ceci, confesse ce que tu as fait, glorifie Dieu. Et après, il est exécuté. La raison principale pour sa demande de pardon, c'est pas d'obtenir la décharge et puis d'éviter la punition. Il subit la punition. C'est pour glorifier Dieu. C'est pour glorifier Dieu. Donc, est-ce que ça nous fait rien qu'on a fait tort à Dieu? Et donc, nous demandons pardon pour lui. Mais deuxièmement, nous demandons pardon parce que le péché, les péchés chrétiens, ont des graves conséquences, mais franchement graves, graves conséquences pour nous, pour notre proximité à Dieu. Le péché non confessé, non pardonné, dans le sens familial, hein, dans le sens que Dieu le Père ne nous met pas sous le châtiment. Ça nous attire non pas l'enfer, mais ça nous attire le châtiment du Père. Il nous enlève les bonnes influences de son esprit. Nous gémissons quand nous lisons un passage comme le psaume 32. Nous comprenons bien pourquoi nous devons demander pardon tous les jours. Il dit ceci, David, au sujet de son péché, d'une expérience où il ne demandait pas pardon. Il dit, tant que je me suis tu, donc au sujet de mes péchés, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main pesait sur moi. Les amis, ce n'est pas simplement que vous avez un problème psychologique, que vous-même, vous n'avez pas la conscience tranquille. C'est Dieu lui-même qui fait peser sa main sur vous, parfois. Ta main pesait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas couvert ma faute. J'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel, et toi, tu as enlevé la faute de mon péché. Qu'ainsi, tout fidèle te prie, au temps convenable. Il dit, ce que je viens d'expliquer de mon expérience, ça s'explique à vous tous. Nous savons que Paul a dit aux Corinthiens qu'il y avait des gens dans l'assemblée qui étaient malades et certains qui étaient décédés parce qu'ils péchaient vis-à-vis de la Sainte Cène, ne se repentaient pas et ne disaient pas par rapport à ces péchés, pardonne-nous nos offenses. Le châtiment du Père est une réalité. Et la Bible dit que ce n'est pas parce que Dieu nous prend en haine, il dit exactement le contraire, que le Père châtie celui qu'il aime. Qu'il aime. Quatrième question, qu'est-ce que le pardon que je demande à Dieu? Et là, je vais glisser là-dessus, je ne vais pas dire tout ce que je voulais dire, mais simplement. Vous n'êtes pas en train de demander une indulgence ou une tolérance. Pardonne-moi pour que je puisse continuer. Bien sûr que non. Une vraie demande de pardon sous-entend que je ne veux pas continuer. Je demande pas une amnistie, c'est-à-dire un pardon aux dépens de la justice. Mais je suis en train de dire, Père, puisque ce péché que j'ai commis a reçu sa justice à la croix, puisque justice a été faite par rapport à ce péché, alors pardonne-moi, délivre-moi des effets de ce péché. À cause de Jésus-Christ, grâce à ce qu'il a subi, sa condamnation. Et la dernière chose, c'est que quand je demande le pardon, je ne suis pas en train de demander une tolérance ou une amnistie, et non pas une clémence à demi-cœur, à contre-cœur, comme si Dieu disait, ben d'accord, je vous pardonne. Nous sommes en train de demander un miracle divin chaque fois que nous prions. Parce que le pardon divin est comme ceci. Dieu lui-même dit, venez quand vous priez, pardonnez nos offenses. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. En ces jours, dit l'Éternel, Jérémie 50, on cherchera l'iniquité d'Israël et elle n'existera plus. C'est incroyable ce que nous demandons. À être vraiment comme si ce péché n'a jamais été. dans la manière où Dieu nous voit et nous traite. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Nous sommes en train de demander un pardon divin, c'est-à-dire parfait et complet, dans lequel la grâce de Dieu règne sur mes fautes. Et c'est une chose glorieuse, vraiment, que nous demandons. Je finis avec ce dernier point qui est juste une application. Pourquoi donc, et nous en parlerons plus la semaine prochaine, pourquoi donc est-il une chose si bénie de prier chaque jour pour le pardon? Parce que je veux vous pousser à voir que c'est vraiment une chose qui transforme la vie, de prier cette seule requête. Et je vais juste vous donner ces cinq raisons sans les expliquer. Premièrement, prier de cette manière signifie que tu reprends le point de départ de ta vie chrétienne chaque jour. Tu reprends la place de pécheur chaque jour. Et ça, c'est extrêmement important pour vous et pour moi. Parce qu'on a tendance à vouloir quitter cette place de pécheur. Deuxièmement, quand tu pries chaque jour, pardonne-nous nos offenses, ça veut dire que tu t'obliges à marcher dans la lumière, d'être transparent et honnête avec Dieu, sur le point où la plupart des hommes sur cette planète mentent toute leur vie, c'est-à-dire leur péché. Ceux qui font de mauvais et de mal. Alors que prier cette prière chaque jour t'amène à faire exactement le contraire, à être complètement honnête vis-à-vis de la chose sur laquelle il est le plus difficile d'être honnête. C'est formidable cette prière. Troisièmement, quand tu pries chaque jour « Pardonne-nous nos offenses », tu te détournes chaque jour d'un danger, le danger d'essayer de bâtir ta relation avec Dieu sur une prétence de bonté personnelle. Et tu reprends la place, tu bâtis ta relation avec Dieu chaque jour sur sa grâce pardonnante. Seule. Quatrièmement, quand tu pries chaque jour « Pardonne-nous nos offenses », ça veut dire que tu replaces consciemment ta foi dans le sang du Sauveur, dans cette croix de Calvaire, dans la mort de Christ, comme la seule solution, comme la chose qui tous les jours est le point, le fondement, le roc, le point d'appui. Et dernièrement, quand tu pries tous les jours « Pardonne-nous nos offenses », tu commences chaque jour comme une femme, comme un homme pardonné, miraculé. Et tu pars blanc comme la neige. Et tu pars donc en tant que personne qui aura envie que les autres sachent. Parce que chaque jour, tu revis, tu re-expérimentes en quelque mesure la merveille d'être pardonné. Pardon.